Chers auditeurs, bonjour. Ici Elisa, animatrice principale de la web radio LA Radio. Dans cette troisième émission radio, nous allons vous présenter les sujets suivants. Pour la rubrique Société, la pédophilie, avec Sandy, Tanusia et Malvina. Pour la rubrique Micro-trottoir, la liberté d'expression, avec Hakim, Siem et Younous. Pour la rubrique Zoom sur l'éducation aux médias, préparée par Faiza, Omaima et Julien. La chronique Animaux, cruauté envers les animaux et les abandons, préparée par Léa et Yasmine. La rubrique Santé, le sommeil des jeunes, avec Samy, Simon et Nadir. La rubrique Collège, le langage des jeunes, les groupes et le style vestimentaire, présentée par moi-même, David et Sébastien. La rubrique Loisirs, les raps engagés, avec Kelvin, Samy et Antonio. Et puis la rubrique Sport, la Zumba, avec Imen et Shaima. Je vous propose de commencer par le sujet la pédophilie, qui j'espère vous touchera autant que moi.
Nous avons choisi de vous parler d'un problème malheureusement de plus en plus fréquent, et dont les victimes sont des enfants. Les affaires de pédophilie se multiplient dans les journaux, télévisés et même dans les écoles. La pédophilie est l'attirance sexuelle d'un adulte pour les enfants, filles ou garçons. C'est une relation physique avec un mineur. En France, on est mineur jusqu'à 18 ans. L'agression ou l'abus commence à partir du moment où la personne touche ou caresse la victime. C'est donc un délinquant sexuel. Les pédophiles sont particulièrement dangereux car ils considèrent l'enfant comme un objet. C'est ce qu'on appelle des pervers, des prédateurs.
On ne sait pas pourquoi un individu devient un pédophile, mais il y a des pistes récurrentes. Beaucoup auraient subi des agressions dans leur enfance ou ont eu une puberté marquée par un blocage et la frustration. Des éléments auraient compliqué leur passage vers une sexualité adulte, si bien que certains se sont focalisés sur un érotisme prépubère. Ils sont le plus souvent célibataires. 5% des enfants seraient victimes d'actes sexuels commis par des adultes. Dans 60 à 80% des cas, les agresseurs sont de la famille de la victime. Dans ce cas-là, on peut aussi parler d'inceste. Une étude réalisée en 1999 montre qu'environ 15% des pédophiles éprouvent un sentiment de culpabilité après l'acte et n'ont pas envie de recommencer, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. En 2012, en France, 5500 enfants ont été victimes d'abus sexuels. On estime qu'un pédophile agresse entre 60 et 100 enfants dans sa vie.
Subir une agression sexuelle est traumatisant. Cela peut entraîner un sentiment d'impuissance, de culpabilité, une perte de repères, des phobies, car la victime subit un choc émotionnel très grave. Mais heureusement, il existe plusieurs associations qui ont pour but d'aider et de protéger les victimes, comme Action Blanche, Action Innocence et Fondation pour l'Enfance. Les pédophiles risquent une peine de 20 ans de prison, mais ils sont considérés comme des malades mentaux et doivent avoir un traitement chimique quand ils sont en prison. Ce médicament empêche la testostérone de stimuler certaines zones du cerveau et d'avoir une action simulatrice sur le libido. Le traitement se fait sous forme d'injections mensuelles ou de prises quotidiennes.
Que dit la loi ? La loi punit l'agression sexuelle, mais elle sanctionne aussi depuis quelques années la production, diffusion et détention d'images pornographiques impliquant des mineurs de 18 ans sont illégales en France ou même juste la consultation d'images pédophiles sur Internet, même si le pédophile n'est jamais passé à l'acte. Ce sujet est intéressant car il nous fait comprendre qu'il est important de protéger les enfants en leur parlant très tôt de ce danger. Il faut les mettre en garde sans les traumatiser.
Nous allons poursuivre avec un micro-trottoir sur le sujet la liberté d'expression où vous découvrirez que chacun a le droit d'avoir une opinion différente.
La liberté d'expression fut la première conquête de la Révolution française. Elle figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La liberté d'expression, c'est de pouvoir exprimer ses ressentis, ses opinions librement, mais bien sûr, il y a des limites et plusieurs interdictions dans la liberté d'expression, comme la diffamation, dire des mensonges sur quelqu'un, faire circuler des rumeurs, faire un montage photo, insulter des personnes à cause de leur pays d'origine, de leur couleur de peau, de leur religion, de leur mode de vie. C'est du racisme et de la discrimination. Diffuser des images d'une personne prise dans un lieu public ou privé est totalement interdit sans l'accord de la personne prise en photo. Publier tout acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'il ait été lu en audience publique. Défendre des idées dangereuses ou criminelles, telles la défense des crimes, une guerre ou contre l'humanité, ou encore l'incitation à commettre certains crimes ou délits comme des actes de terrorisme. Toute infraction sera punie par la loi, par des peines de prison et d'une lourde amende.
Nous sommes allés interviewer des personnes dans la rue.
Est-ce que la liberté d'expression est importante pour vous ?
Ça dépend dans quel pays. C'est un vaste sujet parce que même quand on est en entreprise, par exemple, un individu peut être amené parfois à penser certaines choses et pas en faire part parce qu'il peut avoir pas forcément peur des représailles, mais de ce qu'on pense de lui. C'est vraiment une vaste question.
Ça dépend pourquoi ?
Très importante car ça nous permet d'exprimer ses ressentis.
Oh bah oui, je pense que oui, c'est quand même toujours important de pouvoir dire ce qu'on pense. Ouais.
Ah bah, elle est essentielle pour moi.
Et pensez-vous que la liberté d'expression soit respectée ?
Oh non, pas toujours. Oh non, pas toujours, non, je pense pas, non. On voit souvent dans les médias hein, des gens qui sont sanctionnés parce qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire, parce que ça ne plaît pas, donc ouais, je pense que non, on n'est pas forcément toujours libre de dire ce qu'on a envie de dire.
Pas tout le temps. Dans les médias, sur la télé, la radio, et même dans les journaux, ils sont souvent bloqués, ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Bah, l'affaire de l'avion qui s'est écrasé, là, ils ont censuré énormément. L'affaire d'Outreau avec les gamins qui ont été violés, ils ont censuré énormément. Non, mais,
Charlie Hebdo,
c'est pareil. J'ai travaillé un an à Berlin, on recevait les informations par bribes de ce qui arrivait en France, mais c'était filtré. Je sais bien de quoi je parle. Les médias ne peuvent pas raconter ce qu'ils veulent. Des consignes, ils peuvent pas. Tous les articles qu'ils écrivent sont relus, pas seulement par leur patron, mais aussi par le gouvernement.
Bon, on connaît tous l'histoire de Charlie Hebdo où elle n'a pas été respectée.
En France, on a quand même de la chance par rapport à certains pays.
En conclusion, la liberté d'expression existe en France et dans d'autres pays. On peut exprimer ses ressentis à condition de respecter les limites fixées par la loi. La liberté d'expression est importante car elle a permis à beaucoup de pays de faire tomber les dictatures. Au gouvernement de rendre des comptes et de respecter la loi. La liberté d'expression et la libre d'information contribuent à améliorer la qualité de vie de diverses manières. On est libre de penser critiquer tant qu'on respecte les limites imposées par la loi, sans avoir peur de se retrouver en prison ou assassiné.
Enchaînons sur Zoom sur avec l'éducation aux médias.
Bonjour à tous. Nous allons vous parler d'un sujet d'actualité qui provoque pas mal de débats. Il s'agit de l'éducation aux médias, qui est maintenant inscrite dans les programmes d'enseignement scolaire. Nous avons enquêté pour vous. Au programme, nous expliquerons d'abord ce qu'est l'éducation aux médias dans les écoles. Puis nous verrons pourquoi il est important d'éduquer les jeunes aux médias. Et nous finirons en vous informant des mesures prises par le gouvernement pour développer l'éducation aux médias dans les établissements scolaires.
L'éducation aux médias est une forme d'enseignement très riche. D'une part, elle nous permet à nous, les élèves, de développer notre esprit critique et notre jugement. D'autre part, elle nous apprend à nous informer de manière intelligente et à mieux nous exprimer dans le but de devenir des citoyens avertis. Elle permet donc de former des cyber-citoyens responsables qui utilisent de manière responsable les moyens de communication libre, tels que les réseaux sociaux, les journaux télévisés, la presse. C'est pourquoi certains enseignements, notamment de français, l'histoire-géographie et les professeurs documentalistes s'impliquent déjà quotidiennement dans l'éducation aux médias. Par exemple, avec notre professeur de français, en lien avec la documentaliste, nous travaillons sur ce projet web radio. Les élèves utilisent sans arrêt Internet et plus particulièrement les réseaux sociaux où il y a beaucoup d'informations qui circulent en ligne. Le numérique est très apprécié par les jeunes et un clic suffit pour avoir des milliers d'informations. Or, les jeunes comme nous sont très vulnérables et on peut faire croire à certaines personnes toutes sortes de choses, même fausses ou dangereuses. Les réseaux sociaux publient beaucoup de choses. À nous d'être vigilants et intelligents pour ne pas crédules et se faire manipuler. Ainsi, l'éducation aux médias intervient dans une meilleure compréhension et interprétation des informations dans le monde.
Le gouvernement souhaite que chaque élève devienne familier avec les médias afin de mieux comprendre les enjeux historiques, culturels, artistiques, économiques et sociaux de la société qui l'entoure. De l'école primaire au lycée, les instruments numériques sont primordiaux dans l'enseignement. Il faudrait qu'il y ait une continuité dans l'enseignement de l'éducation aux médias. C'est pourquoi nous avons voulu interviewer M. Coué, le proviseur du lycée Rotrou, qui est notre lycée de secteur sur l'éducation aux médias dans son établissement.
Bonjour M. Coué.
Bonjour.
Faites-vous de l'éducation en médias dans votre lycée? Si oui, comment vous y prenez-vous? Quelles classes sont concernées?
Alors, il y a plusieurs approches concernant l'éducation aux médias. D'une part, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir l'utilisation des médias. C'est vrai que nos enseignants documentalistes, lorsque les élèves arrivent en seconde, ont une présentation de la recherche documentaire qu'ils vont avoir à effectuer durant leurs études. Et donc, c'est une forme d'éducation aux médias pour savoir effectivement comment utiliser les médias. Vous l'avez également indiqué, à savoir qu'il faut connaître les sources, savoir donc si une source est viable ou pas, savoir dans quel domaine il faut rechercher donc des informations. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, nous avons une option cinéma audiovisuel. Alors, nous avons un enseignement d'exploration art visuel qui commence en seconde, donc est un choix de certains élèves, et puis qui peut se dérouler ensuite en option facultative et en option de spécialité au baccalauréat. Et là, effectivement, c'est aussi par des enseignants, là, il y a une équipe de 6 enseignants qui font une éducation aux médias, alors puisqu'ils utilisent l'image, ils utilisent le son, donc il y a également effectivement une éducation. C'est une des premières choses qui est enseignée lorsque les élèves donc choisissent cet enseignement, c'est-à-dire donc les différentes techniques, les différents respects qui doivent être effectués par les jeunes pour utiliser les médias. Et puis il y a un dernier point qui est évoqué, et là c'est en ce moment. Nous avons une équipe académique qui intervient devant les élèves de seconde actuellement sur le bon usage d'Internet. Donc là, ça concerne tous les élèves de seconde. Il y a 2 personnes qui interviennent dans les différentes classes pour présenter l'utilisation d'Internet, l'utilisation des réseaux sociaux, rappeler donc les aspects juridiques de manière à ce que tout élève, tout jeune, donc qui a une responsabilité face à l'utilisation des réseaux sociaux et l'utilisation de l'image et de la parole des autres, puisse être respecté dans des conditions donc légales et puis donc dans des conditions éducatives.
Selon vous, qu'est-ce que cela apporte aux élèves ?
Alors là encore, vous avez évoqué certains éléments. On a l'esprit critique, on a une part d'autonomie, de responsabilité, le travail en équipe. Parce que tout ce qui touche aux médias, donc, on le voit ce matin, puisque vous avez, vous, au niveau donc, du Collège Louis Armand, une activité donc, liée à cette web radio qui vous oblige à pouvoir être organisé ensemble en équipe. Il y a un travail donc, d'expression, alors autant l'expression orale que l'expression écrite, puisque là, vous êtes dans le registre de l'expression orale, mais elle ne s'est pas faite sans préparation, donc il y a de la rédaction. Donc il y a toute une liste d'éléments qui sont vraiment donc, inscrits dans un cadre éducatif, qui permettent véritablement de développer des compétences que vous êtes censé pouvoir développer durant votre activité scolaire et qui nous sert donc au quotidien, ensuite dans notre vie professionnelle. Donc c'est ce que j'ai expliqué, donc l'expression orale, l'expression écrite, le travail en équipe, la concentration, la réflexion, l'écriture.
Cela demande-t-il plus de travail ou plus de moyens ?
Votre question est complexe. Plus de travail, ça s'inscrit dans une valeur éducative de base. Vous l'avez rappelé, c'est une volonté gouvernementale, c'est une obligation puisque ça fait partie du développement des compétences de chaque jeune. Je ne suis pas sûr que ça nécessite plus de travail, ça s'inscrit dans l'activité scolaire. Plus de moyens ? Pas nécessairement, c'est un choix à un moment donné. J'ai évoqué tout à l'heure notre option cinéma audiovisuel, elle s'inscrit là dans les propositions de l'établissement qui sont faites aux élèves. En ce qui vous concerne, là sur la web radio, oui, il y a des choix qui peuvent être faits, qui nécessitent un minimum de moyens, mais ça presse, on est dans un registre aussi de partenariat avec des radios locales, comme c'est le cas aujourd'hui. Je crois que dès l'instant où on s'engage dans quelque chose, cela nécessite du travail et des moyens, mais pas nécessairement plus. C'est un investissement qui s'inscrit tout à fait dans l'axe éducatif des collèges et des lycées. Donc à nous de faire en sorte justement que l'on puisse les inscrire dans les meilleures conditions possibles pour que ça puisse vous apporter un maximum de choses.
Nous serons élèves retro l'année prochaine. Est-ce que vous seriez intéressé par un projet média entre une classe de 3e et une classe de 2e pour qu'on puisse par exemple continuer le projet Web Radio et être les parrains des futurs 3e qui feront ce projet?
Nous avons déjà eu l'occasion avec vos enseignants et votre principal, d'évoquer ce sujet lors de discussions assez libres. Mais c'est vrai que je suis très intéressé intéressés par cette situation. La difficulté, c'est de trouver les personnes qui puissent encadrer les élèves qui seront volontaires pour faire vivre ce partenariat. Donc, nous avons un certain nombre de projets qui sont engagés, qui nécessitent beaucoup de temps de travail et des équipes qui s'y investissent. Aujourd'hui, la difficulté sera de trouver les personnes qui, éventuellement, n'ont pas d'autres projets engagés et qui puissent s'inscrire dans ce projet-là. Mais il est évident que je suis d'ores et déjà extrêmement intéressé par ce choix. J'ai quitté un établissement pour lequel donc, il y a eu une web radio de montée cette année et qui l'an prochain donc, aura une action web radio au niveau pendant une semaine donc, grâce donc, au conseil régional. Donc nous avions travaillé déjà sur ce sujet. Donc si l'on peut le faire avec le collège Louis Armand qui est déjà effectivement avancé, pour lequel vous avez une pratique, pour lequel les enseignants sont déjà investis, ce sera avec très grand plaisir. L'objectif maintenant c'est de trouver les personnes avec qui nous pourrons le faire pour que les élèves puissent, je crois donc votre idée c'était de pouvoir parrainer un petit peu donc vos cadets, c'est-à-dire ceux qui seront l'an prochain en troisième, si vous êtes en seconde, et ce serait effectivement un projet très, tout à fait intéressant que je serais heureux que l'on puisse mener.
Merci beaucoup. En conclusion, le collège Louis Armand s'implique activement dans l'éducation aux médias depuis plusieurs années. Dans notre secteur, dès l'école maternelle, les élèves ont leur journal. Notre journal s'appelle Le Petit Rapporteur. Il existe depuis 2007 et il a été 5 années de suite meilleur journal de l'Académie et en 2013, meilleur journal de France au concours Alexandre de Varennes. Depuis 2 ans, nous avons abandonné le journal papier pour créer un journal numérique sous forme de blog et nous sommes même en partenariat avec l'Éco-Républicain, le journal local. Une page nous est réservée une fois par mois dans laquelle nous rédigeons 2 à 3 articles sur notre quartier. Toutes ces activités et ces concours ont pour but de nous motiver, de nous rendre autonomes, de nous apprendre à nous ouvrir sur le monde et à nous impliquer dans la société, mais surtout ils nous préparent à être des citoyens responsables.
Cela nous permet de savoir ce qu'il faut croire ou pas. Mais pas seulement. L'éducation aux médias nous permet de travailler le programme d'une manière plus intéressante, car cela développe nos compétences en lecture, en écriture, à l'oral, en recherche informatique.
L'éducation aux médias nous permet de mieux analyser le monde qui nous entoure et tout ce qu'on entend. Nous en avons grandement besoin pour ne pas tout croire et ne pas nous faire manipuler. Ce sujet nous tient vraiment à cœur et nous avons essayé de faire le maximum possible pour vous apporter le plus d'informations et vous convaincre de l'importance de l'éducation aux médias à l'école. On espère vous avoir éclairé sur ce sujet et vous aider à construire votre propre opinion.
Continuons avec la chronique animaux et n'oubliez pas, l'abandon est un crime. Et si vous adoptez, vous vous engagez.
Pour certains animaux, la vie est un cauchemar car ils sont maltraités par leur maître. La cruauté envers les animaux est le fait de subir à un animal domestique un acte visant à le faire souffrir. Ça peut être des coups, des blessures ou tout simplement la négligence comme un manque de soins. La France compte aujourd'hui plus de 16 millions d'animaux domestiques, notamment des chiens et des chats. Mais le cas d'abandon et de maltraitance augmente de plus en plus. Par exemple, près de 100 millions d'animaux sont abandonnés chaque année en France. Nous allons commencer par expliquer les causes de maltraitance des animaux, puis des conséquences et nous finirons par notre opinion.
Alors là, vous me direz, quelles sont les principales causes de maltraitance ? La raison la plus fréquente, c'est le coût de l'entretien, car en situation de crise financière, beaucoup n'arrivent plus à nourrir correctement leurs animaux parce qu'ils ont perdu leur travail ou parce que c'est trop cher pour leur budget. La deuxième raison est que certains achètent un animal par effet de mode, pour faire comme le copain, le voisin, et qu'il s'en lasse vite et donc le néglige. Il peut y avoir aussi des maîtres violents qui ne savent se faire obéir que par les coups. Ce sont les chiens qui sont le plus souvent battus par leur maître. En revanche, les chevaux subissent davantage de maltraitance par négligence, le fait de ne plus s'occuper de son animal. Il y a aussi les animaux qui sont utilisés par des expériences, comme pour tester des médicaments, les produits cosmétiques. Mais le cas le plus fréquent de maltraitance est l'abandon des animaux domestiques. Surtout pendant l'été quand les propriétaires partent en vacances ou déménagent, où les animaux sont abandonnés parce qu'ils sont trop vieux ou malades. Ils s'en débarrassent comme s'ils étaient de simples objets.
Mais heureusement, depuis le mois de janvier, une loi a été votée pour protéger les animaux et punir ceux qui les maltraitent. Les animaux sont officiellement reconnus par le Parlement comme étant des êtres sensibles. Et ils ne sont plus simplement considérés pour leur valeur marchande et patrimoniale. Il était temps. Cela veut dire qu'avant, on pouvait maltraiter un animal et ne risquer aucune sanction. D'après le site du ministère de l'Agriculture, sont appelés « mauvais traitements envers les animaux », aussi bien les violences physiques comme les coups, les blessures, que les situations de privation, par exemple le manque de nourriture ou d'eau ou de négligence, absence d'entretien ou de soins, préjudiciable à l'animal. Le code pénal distingue 4 niveaux. Les mauvais traitements, les atteintes involontaires envers la vie des animaux, les atteintes volontaires et enfin des actes de cruauté et l'abandon. La dernière catégorie constitue un délit et est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Sur le terrain, l'organisme habilité pour intervenir à la DDPP, direction départementale en charge de la protection des populations, qui comprend des anciens services vétérinaires, mais aussi la police et la gendarmerie, qui peuvent être saisis directement d'une plainte.
La législation. Un particulier peut détenir chez lui jusqu'à 9 chiens maximum selon la loi. Aucune autorisation n'est nécessaire pour posséder un nouvel animal de compagnie, reconnu comme étant d'espèce domestique. C'est le cas des lapins, des furets et des chachillas. Une autorisation est cependant indispensable pour les nouveaux animaux de compagnie dites non domestiques, certaines espèces de tortues, d'oiseaux ou de carnivores. La détention non déclarée est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En conclusion, avoir un animal est une lourde responsabilité. Nous devons toujours le traiter de la meilleure des façons. Et même si un animal n'est pas un être humain, il doit être respecté. Il a le droit de vivre en paix, sans maltraitance, sans privation. Il faut punir toutes les personnes qui maltraitent les animaux et leur interdire d'en posséder un. Il ne faut pas oublier qu'un animal est un être vivant.
Ensuite, avec la rubrique santé, le sommeil des jeunes, qui lui est de plus en plus difficile pour nous.
De nos jours, de plus en plus de jeunes sont en dette de sommeil. Mais qu'est-ce que la dette de sommeil ? Eh bien, une dette de sommeil, c'est quand on ne dort pas assez longtemps. On estime qu'à peu près 2/3 des élèves sont en dette de sommeil. En moyenne, un adolescent entre 11 et 16 ans doit dormir entre 8 et 10 heures par nuit. Or, un adolescent sur 4 dort moins de 7 heures par nuit. Et donc, ce retard d'une heure de sommeil, c'est cela la dette de sommeil. En premier, on va vous parler des causes de ce manque de sommeil. En second, on va vous décrire les conséquences. Et pour finir, on vous présentera quelques solutions.
Il y a 2 causes principales. Tout d'abord, une cause biologique. Les adolescents ont tendance à vouloir transgresser les règles, donc ils veulent transgresser la règle de dormir tôt. Puis, les jeunes sont entourés d'écrans, comme la télévision, l'ordinateur, le téléphone, le portable et les tablettes, dans leur chambre qui sont de vraies tentations, et beaucoup restent sur leur écran de plus en plus tard pour jouer aux jeux vidéo, surfer sur Internet. Or, ces nouvelles technologies réduisent la production d'endorphines. Les endorphines sont des molécules qui donnent la sensation d'être fatigué.
Le manque de sommeil a de nombreuses conséquences. Il provoque des difficultés scolaires, car beaucoup de jeunes sont fatigués et ont du mal à se concentrer. Ils accumulent donc du retard. Certains s'endorment même en cours. Ça dérègle notre horloge biologique et on a du mal à trouver le sommeil quand on se met au lit. Les personnes se couchant tard, vers 2-3 heures du matin, auraient un taux de lymphocytes globules blancs inférieurs d'environ 25% à ceux qui se couchent tôt, vers 23 heures, et seraient donc plus fragiles. Ça diminue les capacités intellectuelles et ça nous rend plus nerveux. Le manque de sommeil fait grossir car ça nous ferait manger plus. En effet, en dormant 30% de moins que d'habitude, notre corps serait en demande de nourriture et consommerait environ 500 calories supplémentaires. Cette réaction serait due à une hausse de la leptine et une baisse de la ghrelin, deux hormones chargées de réguler notre appétit et notre dépense énergétique. Donc cela nous ferait grossir.
Pour être moins fatigué, on doit dormir par heures régulières, ne pas changer de plus de 30 minutes son réveil et son coucher. On doit aussi arrêter tous les écrans avant de dormir. Il faut aussi éviter les boissons énergisantes et excitantes.
Mon opinion est que je trouve le manque de sommeil est dangereux pour la santé et qu'il faut se coucher plus tôt pour notre bien, même si on n'en a pas toujours envie.
Moi, avant, je me couchais vers 23h minuit. Maintenant, je me couche vers 21h30, 22h et depuis que je me couche tôt, je suis beaucoup moins fatigué.
De ma part, je pense qu'il faut arrêter la télévision, les jeux vidéo, les ordinateurs, car le soir, c'est la cause majeure du manque de sommeil chez les jeunes.
On poursuit avec le langage des jeunes, les groupes et le style vestimentaire, qui, j'espère, vous montrera l'impact sur des personnes de certaines choses. Et je vous retrouve de suite avec David. Dans cette chronique Vie du collège, nous nous sommes intéressés à la façon dont se forment les groupes sociaux chez les jeunes, c'est-à-dire ce qui fait qu'on va préférer certaines personnes à d'autres. D'après nous, il y a 3 causes. D'abord, le style vestimentaire, puis l'influence des groupes et pour finir, le langage. De nos jours, il existe différents styles vestimentaires, tels que le gothique, le casual, le style rock ou sportswear. Évidemment, il existe encore plein d'autres styles vestimentaires, mais nous nous sommes intéressés à ceux-là car ce sont les plus fréquents.
Le sportswear, c'est clairement un style sportif mais chic. Donc il y a plusieurs possibilités pour s'habiller comme un jogging qui se resserre au niveau des chevilles et un petit haut simple. Look casual, c'est un look décontracté mais chic. Il faut mélanger les matières comme les matières chaudes ou les matières légères. Un jean avec une chemise par exemple. Le style gothique, c'est un style caractérisé par les habits noirs. C'est aussi un style rebelle, mais il recherche à être l'exact inverse de ce que l'on voit habituellement. Le look rock, c'est fait pour se donner un style rebelle. Ce style se compose essentiellement de cuir. Il y a la veste, le pantalon.
Aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'habillent non pas pour eux, mais surtout pour les autres. L'apparence physique est un élément très important dans nos vies. On doit faire bonne impression pour arriver à se faire accepter par des groupes d'amis populaires. On a ce désir constant de vouloir s'intégrer et de vouloir se faire remarquer par tous. Mais est-ce qu'on ne prend pas le risque de devenir surtout superficiel ? Il y a un proverbe qui dit « Dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es ». Donc, le style vestimentaire reflète notre personnalité, du moins l'image qu'on a envie de donner. Et puis, nous parlerons aussi de l'influence des groupes sur certaines personnes quand on porte des marques ou bien si une personne ne parle pas à une autre personne. Les jeunes sont constamment jugés sur leurs apparences physiques. Pour éviter l'exclusion, il faut se fondre dans le groupe, appartenir à une bande comme on dit. Les jeunes se laissent ainsi prendre dans cet univers de la mode, là où la plupart du temps les préjugés règnent. Dans les collèges, un élève peut être rejeté par ses camarades parce qu'il n'est pas à la mode. Ne voulant pas faire l'objet des critiques, les jeunes préfèrent suivre tout le monde et porter des vêtements comme les autres, qui finalement ne leur correspondent pas toujours. Par exemple, dans certaines écoles primaires ou bien au collège, certains sont même victimes de rejet à cause de leurs apparences, car ils n'ont pas le style qu'il faut ou les vêtements de marque que tout le monde porte. Quand une personne ne parle plus à une personne, tout le groupe de copains se met contre la personne en question, alors qu'il n'y a aucune raison précise. Ils se suivent comme des moutons, sans chercher à savoir pourquoi cette personne n'est pas comme les autres. Cela est vraiment ridicule et dangereux. Nous n'avons pas besoin d'être des clones et il est important d'affirmer sa personnalité à travers ses vêtements.
Pour finir, nous allons vous parler du langage des jeunes. Le langage est utilisé par l'homme pour communiquer, dire ses pensées et ses sentiments. À chaque époque, le langage change car le langage évolue chaque jour. Mais les ados, quel que soit leur style, ont besoin d'avoir leur propre langage. Le langage broché jeune, avec des mots ou des expressions précises. Voici quelques exemples. Je m'en ouf, qui veut dire je m'en fous. Ou par exemple aussi tu kiffes, qui veut dire aimer quelque chose. Ou encore avoir le seum, qui veut dire avoir les nerfs, comme être énervé pour quelque chose.
En conclusion, de toute façon, personne n'est parfait, et heureusement.
Et moi, je trouve que le style ne devrait pas interférer entre les rapports humains, car le style n'est pas la personnalité.
Pour continuer, le loisir, les raps engagés qui, eux, sont de plus en plus rares aujourd'hui.
Bring the action. Beaucoup d'adultes ont une image très négative du rap. Pour eux, c'est une musique violente, agressive et donc une musique pour les voyous. Ils ont tort car il y a plusieurs sortes de rap. C'est vrai qu'il y a des chanteurs qui écrivent des chansons violentes où ils expriment leur haine, leur sentiment de colère. Ce rap-là peut être dangereux. Mais il y a des très belles chansons qu'on appelle rap engagé. Le rap engagé est un style de rap où l'artiste, qui a conscience des problèmes de la société, veut défendre ses idées et transmettre un message pour inciter son public à réfléchir et à réagir à son message. Comme cause à dénoncer, on retrouve souvent le racisme, les problèmes sociaux, les sujets d'actualité ou bien les inégalités dans le monde. Mais parlons des origines du rap engagé, appelé aussi rap politique, qui est né aux États-Unis, où c'est un style de musique vu négativement qui portait sur des sujets comme la drogue, la violence, les gangs, les armes. Ce style de rap s'est ancré dans les villes comme Philadelphia, Détroit ou Boston. En France également, le rap français engagé est apparu aux alentours de 1980, où la plupart des textes engagés venaient du département Seine-Saint-Denis. Ces rappeurs dénonçaient la situation des jeunes dans les quartiers.
Le rap a beaucoup de succès auprès des jeunes comme rappeur engagé. Le rap a beaucoup de succès auprès des jeunes. Comme rappeur engagé, il y a par exemple Kerry James, Kenny Arcana, Medine, Ayam, etc. Par exemple, Kerry James dans sa chanson Deux Issues parle des deux issues qui s'offrent aux jeunes des quartiers populaires, la mort ou la prison. Si on choisit le chemin de la délinquance, bien sûr.
Issu des quartiers meurtriers, là où le meurtrier est trop fréquent, la vie du voie et ses conséquences. J'y raconte les tripes du ghetto, ses ambiances louches. Quand sonne le fusil à pompe, tout le monde se couche. Pas un voyou qui fasse long feu, t'es prévenu. À peine tu viens d'ouvrir les yeux que t'es détenu. La mort ou la prison, pas deux issues. L'histoire se répète et tu crois être le plus vicieux. Pas de judiciaire procédure, la rue te guette, mec, les flics aussi. T'as peut-être déjà vendu une barrette à un vide, si. Entre les traites et les balances, tu te balances comme sur un fil. Ta carrière peut prendre fin sur un coup de fil d'une balance. Un mec qui mal est pas sa table, ton numéro d'écrou remplace celui de ton portable. Là, tu connais l'envers du décor. La prison et son univers hardcore. Faut que t'assumes, même si son atmosphère t'asphyxie. Le juge t'allume et fait béton ton sourcil. Affaibli malgré ton moral d'acier. Leur barreau, tu souhaiterais pouvoir les scier.
Ou bien la section d'assaut qui a écrit un véritable hymne à l'amour maternel. Ce morceau de la section nous rappelle à quel point une mère est importante et qu'il faut en prendre de soin avant qu'elle parte. Il rappelle assez leur précédent tube du même genre, Désolé. Cette chanson a été élue chanson de l'année. Cette chanson est un rap familial car je suis sûr que les mères ont dû l'écouter et l'aimer. Elle nous fait réfléchir. Nous les jeunes, elle nous rappelle qu'il est important de respecter sa mère et de faire les bons choix dans la vie.
Même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas.
Pour conclure, on peut dire que le rap engagé cherche à toucher le spectateur par les sentiments, en l'émouvant ou par l'esprit, en le faisant réfléchir, lui faire prendre conscience des dangers, des tentations dans les quartiers et donc de l'importance de prendre le bon chemin. Nous pensons que le rap engagé nous fait réfléchir et nous pensons également autrement quand nous écoutons des morceaux engagés, cela nous permet d'avoir une autre vision de notre société.
Et nous finissons sur une danse de plus en plus populaire, la Zumba. La Zumba est une activité sportive qui fait de plus en plus fureur en France depuis les années 2000. C'est un phénomène de danse qui attire les jeunes comme les plus vieux. Cette danse venue de Colombie a été inventée en 1990 par Alberto Beto Pérez, chorégraphe et professeur de danse latine de la célèbre danseuse-chanteuse Shakira. C'est un programme d'entraînement physique qui combine des éléments d'aérobic et de danse latine comme la salsa, la samba ou le merengue, ou des danses plus traditionnelles telles que le Bollywood ou la danse orientale. Nous allons vous expliquer en quoi la Zumba est différente des autres sports, puis pourquoi cette danse est tellement à la mode.
Tout d'abord, la Zumba est bien différente des autres sports. En effet, en la pratiquant, nous n'avons pas l'impression de faire du sport, mais de danser. Si on la compare à l'aérobic, en pratiquant la Zumba, on s'amuse en plus, car on fait du sport sur des chorégraphies très modernes, mais surtout rythmées. En plus de ça, la Zumba est accessible à une clientèle variée. Des enfants aux personnes âgées, en passant par les adultes. C'est l'effet de mode du moment. La séance qui dure jusqu'à une heure commence par un échauffement, puis par une série de danses en finissant par des étirements. Elle permettrait de brûler 500 à 1000 calories par heure. Pourquoi la Zumba est si à la mode? C'est simple. À notre âge, nous voulons juste nous amuser. La Zumba n'est pas seulement un sport ou un loisir, c'est un défouloir. On s'éclate entre filles, on danse sur des chorégraphies très simples à mémoriser, et en plus ça fait du bien. Et c'est tant mieux parce que les centres d'intérêt des jeunes d'aujourd'hui sont plus les réseaux sociaux, les téléphones portables, etc. Bref, les jeunes bougent peu et surtout les filles. L'intérêt de ce sport est donc de se dépenser mais aussi de rencontrer du monde.
En conclusion, la Zumba est un très bon moyen de garder la ligne en faisant du sport sans s'en rendre compte. D'après le site Zumba Fitness, plus de 12 millions de personnes participent à la Zumba qui est offerte dans environ 110 000 endroits répartis dans 125 pays.
Je pratique la Zumba et j'aime beaucoup en faire car elle permet de me défouler pendant une heure. On apprend d'autres sortes de danses, il y a de bonnes musiques et elles sont variées. C'est un très bon sport que je vais continuer l'année prochaine.
Je fais de la Zumba depuis ce début d'année. J'en avais entendu parler par mes amis et ma famille. J'aime ce sport parce que ça me permet de bouger sans que j'ai l'impression de forcer ou faire des efforts particuliers. Je vous conseille vivement ce sport.
Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette troisième émission vous aura plu et que nous vous aurons appris certaines choses. Au revoir et à l'année prochaine.
Sipping on the rum in the corner still. We are grooved to the morning. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy.
RGC. Baby, I'm playing.